Contemporain de Mozart, de Haydn et de Beethoven, le compositeur tchèque Jan Ladislav Dusek, ou Dusik dans sa graphie d'origine, est quelque peu oublié de l'histoire de la musique. N'étaient des musicologues passionnés par la musique de ce pianiste de renom en son temps, qui fut le professeur de piano de la reine Marie-Antoinette et termina sa vie à Paris au service de Talleyrand, le célèbre ministre de Napoléon. Citoyen européen avant l'heure, il a sillonné le continent au gré des tournées, des emplois et des remous de l'histoire agitée de la fin du XVIIIe siècle. Au micro d'Anna Kubichtal, le musicologue français Jean-Pierre Bartoli, professeur à la Sorbonne, est revenu sur le parcours aventureux de Jan Ladislav Dusek, né en 1760 à Czaslaw, en Bohême centrale, dans une famille de musiciens, un milieu qui le prédestinait au même art, le talent en plus.
Culture sans frontières.
C'est tout à fait typique de ces grandes familles de musiciens et évidemment à un moment donné apparaît un qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus doué peut-être que les autres et qui fait une carrière fulgurante et exceptionnelle en son époque. Son père était effectivement musicien et il a appris la musique dans son milieu familial. Il faut dire aussi que à l'époque la Bohème et comme disait Charles Burney à l'époque, c'est le conservatoire de l'Europe, c'est un endroit où l'éducation musicale des enfants est exceptionnelle dans cette Europe de la fin du XVIIIe siècle. Et donc tout prédisposait ce jeune musicien très doué à faire une splendide carrière, tout d'abord en tant que pianiste, c'est-à-dire promoteur de ce nouvel instrument qu'est le pianoforte à cette époque-là.
Vous dites en effet qu'il est pianiste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate par exemple que la harpe est très présente aussi dans son histoire personnelle. Sa mère est harpiste, son épouse était harpiste, sa fille sera harpiste, et il compose aussi pour des œuvres pour harpe.
Oui, alors il faut comprendre, c'est tout à fait lié à cette époque-là. On est dans l'essor du mouvement romantique. Hein. Le romantisme commence au milieu du XVIIIe siècle, va se développer jusqu'au XIXe siècle, et on est dans cette montée esthétique qui est très, très, très typique. Et dans ce cadre-là, on cherche les instruments, parmi les instruments à cordes, on cherche les instruments qui sont le plus aptes à traduire l'émotion immédiate le plus directement depuis le geste et depuis l'expression du corps. Or, il se trouve que par rapport au clavecin, le pianoforte, malgré cette mécanique tout à fait complexe déjà, permet de traduire des mouvements de l'âme par des gestes, par l'expressivité du jeu. On peut jouer plus ou moins fort, on peut réaliser des phrasés très particuliers. Or, il se trouve que la harpe aussi a ce pouvoir-là, et même encore plus, puisqu'on joue directement des doigts sur les cordes. Donc, à cette époque-là, la harpe est très privilégiée, autant que le pianoforte. N'oublions pas que Marie-Antoinette joue de la harpe à Versailles, et au même moment, elle a, comme professeur de piano, entre 86 et 89, elle a justement Dusek comme professeur de pianoforte. Donc, on a vraiment une communauté d'esprit entre le pianoforte et la harpe. Alors effectivement, Dusek avait une mère qui était harpiste et a épousé effectivement une fameuse harpiste en Angleterre. C'est-à-dire au moment où Dusek fuit la Révolution française en 1789, il se retrouve à Londres. Là, il rencontre Sophia Cory et va composer en plus beaucoup d'œuvres pour son épouse.
Alors, Doucet a une vie complètement aventureuse. Hein. Quand on commence à s'y intéresser, c'est incroyable. Il sillonne l'Europe, il va jusqu'en Russie, il est en pays germanique, il rencontre toutes les grandes personnalités de son époque. J'étais presque étonnée de voir combien il voyage, il circule toute sa vie sans vraiment se fixer quelque part. Ou alors, si oui, son séjour est toujours bousculé au final.
Oui, on devrait faire un film sur Doucet. Il y a tout pour faire un film d'aventure, un film
romanesque.
Oui, ce serait formidable à faire. Effectivement, en plus, il y a des affaires un peu complexes. On ne sait pas trop. Je crois qu'il manque de peu d'être mis en prison à Saint-Pétersbourg pour des histoires, je crois, un peu sentimentales. De même que en Angleterre, il fuit Londres parce qu'il fait faillite. Il avait monté une maison d'édition avec son beau-père. Et il fait faillite et pour éviter la prison, il traverse la Manche et se retrouve en Allemagne. Il a une vie extrêmement agitée, extrêmement étonnante. Il abandonne sa famille, mais il faut dire que son épouse, visiblement, était infidèle. Enfin, il y a tout pour faire un très beau scénario. Mais au-delà de ça, il rencontre aussi des personnalités fascinantes. Et par exemple, lorsqu'il est en Allemagne, il rencontre Louis-Ferdinand de Prusse, qui est donc un aristocrate et un personnage politique important, et qui est aussi un excellent pianiste. Et il se met au service de Louis-Ferdinand de Prusse, et ils improvisent à deux pendant de longues soirées, tout chacun sur un piano, des pièces, parce que Doucet était un grand improvisateur. Et quant à Louis-Ferdinand de Prusse, tout monarque qu'il était, il était aussi un remarquable pianiste. Et Louis-Ferdinand de Prusse va mourir au cours d'une bataille contre les armées napoléoniennes. Et là, du coup, il va rendre effectivement Doucet extrêmement malheureux, mais du coup, il se retrouve sans employeur. Qu'à cela ne tienne, il part vers la France et il se retrouve à Paris. Et là, il se met au service du prince Talleyrand, qui est le fameux ministre de Napoléon, le ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Après avoir vécu du côté allié contre Napoléon, il vit dans les milieux très proches du pouvoir napoléonien.
On se rend compte, on le voit par exemple, évidemment, avec le destin de Mozart, hein, qui est un des plus grands, évidemment.
Ouais.
Les musiciens, à cette époque-là, j'imagine, c'est très difficile pour eux de vivre de leur art. Il y a le mécénat, évidemment, mais comme vous le dites, son mécène, finalement, en Prusse, meurt, donc il se retrouve sans emploi. Quels sont, finalement, un peu les débouchés à l'époque pour les musiciens, si on voulait, utiliser un mot moderne, hein.
Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Effectivement, on fait toujours le récit de Mozart souffrant énormément de son employeur et essayant de vivre en stricte indépendance, en anticipant en fait sur un grand succès de carrière pour vivre uniquement de la musique de théâtre. Mais en fait, la plupart des... C'est exceptionnel, c'est-à-dire que ce que ambitionnait Mozart, c'était ce que certains à son époque arrivaient à vivre, comme par exemple Christoph Willibald Gluck, qui lui, effectivement, a une vie extrêmement aisée et quasiment libre, parce qu'il est devenu un des plus grands compositeurs d'opéra de son époque et reconnu comme tel. Mozart a cette ambition, il est fort probable d'ailleurs qu'il n'aurait pas été. Il ne serait pas tombé malade, il aurait fini par probablement obtenir un statut, enfin espérons-le, on ne saura jamais, mais un statut de ce type. Mais beaucoup de musiciens, effectivement, sont employés dans des familles prestigieuses, des familles aristocrates ou de très haute bourgeoisie, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est en fait un excellent destin, parce que même si on est enlivré, comme l'était Haydn, où on est considéré comme dans la catégorie des serviteurs, on peut avoir une vie extrêmement agréable. Je pense que Haydn ne souffrait pas à ce point de sa condition, même si par moment les choses ne sont pas si faciles. Donc c'est le cas de Dussek, de ce point de vue, est tout à fait représentatif de quelqu'un qui se met au service d'un certain nombre de familles, mais qui en même temps a des grandes périodes plus aventureuses de voyages, de tournées, et au cours desquelles, effectivement, ils prennent un risque financier qui est absolument énorme. Mais je crois que c'est la condition, quand on se retrouve au service d'une grande famille et qu'on y est bien traité, je pense que c'est considéré à cette époque comme quelque chose d'assez enviable. En quelque sorte, lorsque Dussek arrive à Paris et est employé par Talleyrand, eh ben, il est envié par beaucoup d'autres musiciens parisiens. Et s'il a obtenu ce poste, c'est parce qu'il est... Il jouit d'un prestige dans toute l'Europe, parce que ce que l'on a oublié, c'est que Dussek est un pianiste reconnu, connu, dont on parle dans la presse et dont on suit le parcours. C'est un musicien qui jouit d'un grand prestige à son époque.